Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre qui est journaliste radio et Thomas Langlin qui lui est technicien supérieur du son. Il réalise ses podcasts pour nous faire découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Vous retrouverez, si vous le souhaitez, tous leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com, backstagelepodcast tout attaché en minuscule.com. Second épisode donc sur les quatre prévus du podcast consacré à Bruno Tessaret, qui est écrivain fantôme. Il a prêté sa plume à de grandes personnalités françaises. Comment a-t-il commencé dans ce drôle de métier? Comment travaille-t-il jusqu'à se glisser dans la peau d'un autre? Bruno Tessaret raconte l'envers du décor au micro de Margot Delpierre et sur un montage et un mixage de Thomas Langlin.
Est-ce que comme le personnage de Louis dans Art Nègre,
oui.
En tant qu'écrivain fantôme, vous préférez vous aussi travailler de chez vous, depuis votre bureau avec votre documentation, sans avoir si possible à rencontrer les gens?
Oui, mais ça c'est une vue de l'esprit, ça ne se produit jamais. Mais la documentation est très importante.
Mais ce serait l'idéal.
Ah, l'idéal. Alors ça s'est produit pour moi, pour un livre. Je peux absolument pas vous dire pour qui, parce que c'est une personne, alors là, ultra célèbre. La personne qui menait les entretiens, pour répondre plus concrètement à votre question, je vous dirais qu'il y a essentiellement trois étapes, en fait, dans le travail. Ou même peut-être quatre. Oui, quatre, disons. La première étape, c'est la plus courte, mais c'est la plus importante, c'est la prise de contact. Voir si on va s'accorder, si moi je sens la personne que j'ai en face de moi, si je pense que je pourrais lui apporter quelque chose, si elle a des choses à raconter, etc. Voir des carnets, des notes qu'on peut exploiter, ça se produit assez souvent, ça. Donc la prise de contact qui permet de se familiariser l'un avec l'autre, de voir si le travail sera possible et puis de dégager déjà quelques pistes. De voir, par exemple, de mon point de vue, si la personne que j'ai en face de moi va se livrer assez facilement ou commence à dire « oui, mais je veux pas tout raconter ». C'est pas jamais très bon signe quand les gens disent ça. Bien. C'est un peu, vous allez faire une psychanalyse et vous commencez à dire à l'analyste que de toute façon, vous allez lui parler de ce que vous voulez et pas du tout de ce qui va vous venir en tête. On a envie de dire « faites autre chose qu'une psychanalyse ». Et là, on a envie de dire aux gens « si vous voulez pas raconter de trucs, faites autre chose qu'un livre ». Ça se produit rarement. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est effectivement ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire toute la période des entretiens. 8-10 séances de 2 heures, voilà. Et puis basta. La troisième phase, c'est la phase de l'écriture, que je fais de mon côté, parfois avec des documents écrits, comme je vous disais tout à l'heure, que la personne a rédigé. Quand quelqu'un, par exemple, a tenu des carnets, c'est très très précieux, parce qu'il y a dans les carnets des choses qu'il ne vous dit pas parce qu'il les a oubliées. Donc voilà, travail sur documents. Et puis, dans cette troisième phase, il peut y avoir des... Moi, quand je ne suis pas très assuré de ce que je fais, je soumets à la fois à l'éditeur et au co-auteur, celui qu'on appelle étrangement le co-auteur, je soumets le texte presque chapitre par chapitre, pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas partir dans une mauvaise direction, d'avoir la bonne tonalité, etc. Et là commence la quatrième phase du travail, c'est-à-dire le travail en commun, d'adaptation, de correction, de reprise de certains éléments, de suppression d'autres. Mais là, c'est très variable, parce que j'ai travaillé avec des personnes qui ont, j'ose à peine le dire, pratiquement pas relu le texte, pas lu le texte que je leur soumettais.
Mais ça paraît dingue.
Ça paraît dingue.
Parce qu'après, c'est leur nom sur la première de couverture. Oui. Ça les engage.
Oui. Je vous donne, ainsi qu'aux personnes qui nous font la gentillesse de nous écouter, je vous donne une petite clé. Quand vous écoutez quelqu'un, quand vous entendez quelqu'un de très connu dire dans un média « Je crois que dans mon livre, je dis cela » ou « Il me semble que c'est bien expliqué », vous voyez, émet une sorte
signe.
De réserve. C'est assez mauvais signe. Ça veut dire qu'il a assez peu regardé le texte qu'on lui a soumis. Donc voilà à peu près les quatre étapes qui constituent le travail. Et pour revenir sur le temps nécessaire pour faire accoucher le partenaire que vous avez en face de vous, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et comme je l'ai constaté moi-même avec une forme de stupeur au début, on n'arrive jamais à un nombre d'heures d'entretien qui dépasse les 20 ou 22 heures. Il m'est arrivé à propos de ça, je peux vous raconter ça, sans vous dire de qui il s'agit, parce que j'ai commencé tout à l'heure à vous dire qu'il y a une personne extrêmement célèbre. La personne qui faisait les entretiens et qui était donc mandatée pour rédiger le livre avec cette personne a eu un accrochage assez fort à cause de la personnalité de la personnalité. Et a dit à son éditeur, moi, je continue les entretiens, mais je ne peux pas rédiger le livre. Bien. On m'a donc contacté. Et là, j'ai travaillé pour la première fois. Un, sans avoir mené les entretiens. Deux, sans avoir jamais rencontré la personne pour laquelle j'écrivais. Trois, en n'existant pas à ses yeux, parce que comme c'était en plus quelqu'un qui avait un sale caractère, l'éditeur ne voulait pas braquer cette personne en lui disant, vous savez, X fait les entretiens, mais c'est un autre qui va rédiger le texte. Donc c'était toujours le X qui menait les entretiens, qui était censé rédiger. Donc cette personne n'a jamais su qui lui avait écrit son livre. On confine, si vous voulez, presque à l'absurde à certains moments. Bon, ça s'est produit qu'une seule fois.
Ça vous dérange pas ?
C'est génial. Vous recevez les entretiens, vous êtes chez vous, tranquille, vous écoutez votre musique, vous buvez votre café, et vous avez votre ordinateur qui défile, parce que c'est dans ces conditions-là, c'est relativement facile d'écrire. Et puis vous n'avez pas à vous confronter à la personnalité, en l'occurrence, d'après tout ce que je raconte, plus que difficile que vous avez en face de vous, parce que parfois vous avez quand même des très sérieux clients, hein.
Après, il y a des fois aussi de très bonnes surprises. Quand on lit Arnaigre, vous dites pas son nom, mais on se doute bien que c'est Nicolas Hulot.
Oui.
On a l'impression que là, il y a quand même eu une belle rencontre.
Oui, j'ai écrit deux livres avec Nicolas Hulot. Ça a été des rencontres passionnantes. Passionnantes, enrichissantes, humainement, comment dirais-je, très fortes. À la fois passionnante et parfois dérangeante, parce que je ne vous apprendrai rien en vous disant que Nicolas est quelqu'un qui a un caractère extrêmement trempé. On en a encore eu la preuve il y a quelques semaines. Et c'est quelqu'un qui d'un seul coup peut s'enflammer, se foutre dans une colère noire parce que un article paru 3 jours avant dans une obscure revue a dit que le réchauffement climatique était une blague. Et il se fout dans une colère noire. Donc, c'est extraordinaire parce que avoir travaillé avec quelqu'un qui a une telle passion chevillée au corps, je ne sais pas comment vous dire, mais humainement, c'est complètement incroyable. Et ça a été une très très belle rencontre, oui, effectivement. Mais enfin, je pense que Nicolas Hulot laisse très peu de gens indifférents parce que il a, si vous voulez, une espèce de foi quasiment. C'est pas très gentil ce que je vais dire, mais c'est plutôt gentil dans mon esprit. Il a une foi presque illuminée dans la cause de l'écologie. Et je dois dire que c'est fascinant d'avoir en face de soi quelqu'un qui croit encore plus qu'à 100% à la cause qu'il défend. Et ça a été effectivement... Et le premier livre a très très bien marché. Le syndrome du Titanic a très 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 bien marché. Il s'en est vendu quasiment 200 000 exemplaires en grand format, ce qui est pas rien, hein.
Alors justement, quand ça se vend très bien, et que souvent vous d'ailleurs vous écrivez pour de grandes personnalités, on imagine que ça fonctionne bien après dans le commerce, c'est une activité très lucrative, écrivain fantôme.
Oui, très lucrative, qui peut être très lucrative si le livre... Parce que nous sommes rémunérés à un étiage inférieur, bien évidemment, mais selon le même principe que l'auteur principal, ou disons celui qui signe son livre, c'est-à-dire avec des droits d'auteur. Les droits d'auteur, si ça marche pas, vous gagnez pas grand-chose, vous avez votre avaloir, point. Si ça marche très bien, parmi la trentaine de livres que j'ai écrits, disons qu'il y en a, si j'additionne les ventes de seulement 3 d'entre eux, ceux qui ont le mieux marché, ils ont quand même fait plus d'un million d'exemplaires. Donc, même si vous n'avez pas un énorme pourcentage...
C'est gagnez... 2-3% le pourcentage.
Oui, 2-3%, c'est ça. 2%, et puis parfois avec une progressivité, 3% au-delà de tant d'exemplaires. Mais c'est en général 2%. Vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent.
Concrètement, si vous deviez donner une fourchette...
Ben, le pire, si j'ose dire, que vous puissiez gagner, c'est de ne... Mais ça, c'est comme n'importe quel écrivain. C'est la valoir qu'on vous a versée au début. Sauf que... Sauf pour un de mes romans, je n'ai jamais touché un avaloir. Sauf pour un seul de mes romans sur la douzaine de livres que j'ai écrits sous mon nom, je n'ai jamais touché un avaloir équivalent à ce qu'on verse à un écrivain fantôme. Parce que l'avaloir, il est forcément assez élevé dans la mesure où, si vous voulez, c'est l'éditeur qui est demandeur et qui attend de vous un certain travail. Donc il faut qu'il le rémunère, ce travail. Donc l'avaloir rémunère de toute façon bien, déjà, la période de travail. Si en plus les ventes dépassent la valoir comme son nom l'indique. Après, on calcule les droits. Et puis, ce que vous avez, comme pour n'importe quel auteur, ce que vous avez touché en plus de vos ventes comme à valoir, vous ne le devez pas à l'éditeur. C'est un acquis pour vous. Si vous dépassez les ventes calculées pour la valoir, je vous dirais trivialement, c'est tout bénéfice. Puisque de toute façon, votre travail était déjà payé par la valoir. Et là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Sur un livre que j'ai écrit m'a permis de vivre pendant 3 ans.
Et contrairement à ce qu'on peut croire, finalement, écrivain, ça peut être très lucratif.
Dans ces conditions-là. Si vous êtes dans, si vous ne fonctionnez, si j'ose dire, que dans le domaine du roman, il ne faut pas se leurrer. Il y a 15 romanciers en France, ou peut-être 20, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est un peu, si vous voulez, au niveau des écrivains, alors je ne parle pas des écrivains fantômes, au niveau des romanciers par exemple, c'est un peu comme l'univers des comédiens. C'est-à-dire que vous avez une tranche extrêmement fine de stars qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Vous imaginez ce que gagne depuis 30 ans ou 25 ans Amélie Nothomb quasiment chaque année. C'est colossal. Ou des écrivains plus populaires comme Lévy, Musso, etc. C'est des sommes considérables. Et puis en dessous, vous tombez très vite, très bas, exactement comme les comédiens. Mais là, on est dans le domaine de la création. Dans le domaine du travail rémunéré comme écrivain fantôme, finalement, à un niveau de notoriété, si j'ose dire, très moyen, vous gagnez beaucoup plus d'argent que n'importe quel écrivain.
Est-ce que c'est mal vu d'être écrivain fantôme par d'autres écrivains qui, eux, s'en tiennent au roman ? Est-ce qu'il y a des bisbilles dans ce petit monde ?
Il n'y a pas de bisbilles, parce que tout le monde est très courtois et très, très affable, mais il y a une forme de mépris parfois. Et oui, parce que vous vendez un peu votre âme au diable. Et puis, incontestablement, écrire beaucoup pour d'autres vous dissuade d'écrire pour vous-même, parce que c'est tellement facile. Parce que, comprenez, quand vous êtes romancier, il n'y a pas que le problème d'écriture et de mise en forme qui importe. Il y a quand même le problème des personnages, de l'histoire, de l'intrigue. Là, vous êtes écrivain fantôme. On vous fournit le personnage, on vous fournit l'histoire, on vous fournit l'intrigue, on vous fournit tout. Il ne vous reste plus qu'à mettre ça en forme.
Alors quand vous revenez à une forme de fiction, il y a de la paresse qui s'est installée ?
Oui, un peu. Un peu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer à travailler sur un roman, et puis mon téléphone sonne, X ou Y me dit « Dis donc, t'as pas un peu de temps de libre, j'ai un projet à te proposer ?» On laisse tomber le roman, on s'occupe du projet. Mais ça, c'est peut-être parce que... Il faut savoir être modeste dans le domaine de la création. Si vous n'êtes pas Patrick Modiano ou Pierre Michon, je veux dire que on proposerait à Modiano, encore que Modiano... Non, je finis ma phrase. On proposerait à Modiano d'écrire pour... je ne sais pas qui, d'écrire les mémoires de Jean-Jacques Bourdin. Je pense qu'il ne comprendrait même pas ce qu'on lui demande, vous comprenez ? Donc, si vous voulez, il y a un niveau de génie littéraire où, effectivement, la question ne se pose pas. Mais pour...
C'est après, il faut bien vivre.
Il faut bien vivre, exactement. Et tant qu'à faire de vivre, moi je trouve que c'est pas désagréable quand on est écrivain de vivre en écrivant autre chose. Du reste, combien d'écrivains sont par ailleurs journalistes ou critiques littéraires, travaillent toujours dans l'écriture. Donc pourquoi pas. Mais il est évident que pour un certain nombre d'écrivains, oui, je reprends la formule que j'ai employée tout à l'heure, vous vendez un peu votre âme au diable.
Et de la part de votre entourage, c'est bien compris ?
Ça amuse tout le monde. Ça amuse tout le monde parce que vous revenez chez vous en disant, tu sais, X, c'est pas du tout ce qu'on pense, il est comme ci, il est comme ça. Parce que les gens, alors, vous m'avez pas posé la question, mais j'y réponds si j'ose dire. Les gens sont quand même assez surprenants. Il y a des gens très connus où vous pensez qu'ils sont transparents, que avant même de les rencontrer, vous faites une idée, vous avez une idée très précise. Beaucoup de personnes sont plus complexes, plus mystérieuses, et plus surprenante que l'image qu'on en a. Et ça, c'est très intéressant de découvrir sous l'apparence une forme d'être. Les surprises peuvent être... Ça, c'est humainement, c'est intéressant aussi.